Podcastobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour Roger Boutry.
Bonjour.
Alors Roger Boutry, quand on parle de vous, il y a toujours plein d'étiquettes qui viennent avec vous. Vous êtes pianiste, chef d'orchestre, compositeur. Votre nom n'est pas que rattaché aux orchestres de la garde républicaine. Vous avez une vie musicale depuis une soixantaine d'années impressionnante. On parlerait aussi du Grand Prix de Rome, c'était en 54. Enfin bon, beaucoup de choses depuis à peu près plus de 6 décennies, on pourrait dire.
Oui, certainement.
Alors on pourrait peut-être commencer par une actualité qui en fait date déjà d'il y a à peu près un an, mais qui va sortir sur Cobuzz en qualité Studio Masters. C'était un album intitulé Hasard, que vous n'avez pas enregistré seul, vous êtes au piano sur cet album. Vous êtes avec une saxophoniste qui s'appelle Émilie Leclerc. Parlez-nous un petit peu de l'origine de ce projet, même si on sait que vos compositions ont enrichi le répertoire du saxophone. Comment est née cette idée d'album, de disque ?
Le titre Hasard, c'est parce que c'était une rencontre. On jouait une œuvre de moi où il y avait une partie avec l'orchestre, avec la musique de la garde républicaine. Et Émilie Leclerc jouait une partie de saxophone soprano, difficile, dans l'orchestre. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Et elle a eu l'idée après de me proposer d'enregistrer presque toutes mes œuvres pour saxophone, si j'acceptais de jouer au piano avec elle, ce que j'ai fait très très volontiers.
C'est toujours agréable de voir une œuvre qu'on a écrite un peu comme un enfant qui date du passé, de la voir évoluer, vivre justement, d'être joué, réinterprété, abordé de différentes manières.
Ah oui, il y avait plusieurs choses. Une œuvre qui s'appelle d'ailleurs Hasard, que j'avais écrite pour un saxophoniste espagnol et qui n'avait depuis plus jamais été jouée. Et puis la dernière œuvre que j'ai écrite, qui est un concerto pour saxophone et orchestre. Et là, on l'a joué au piano, bien sûr, avec elle.
Parlez-moi un peu de ce rapport que vous avez avec le saxophone, avec cette sonorité, si on remonte peut-être à très très longtemps.
Oui.
À quel moment dans votre vie, peut-être tout petit, je ne sais pas, vous aviez cette sonorité, la spécificité de cet instrument vous a particulièrement touché ?
Oui, non, c'est pas. Oui, c'est peut-être assez ancien, parce que j'ai bien connu Marcel Mull, qui lui a été le pionnier du saxophone à Paris. Et d'ailleurs, il m'a commandé le concours en 1963, le concours du conservatoire. Et c'est là que j'ai écrit le Divertimento. Et après, il m'a demandé d'écrire d'autres œuvres. Et comme à l'époque, c'était un instrument qui n'avait pas trop de répertoire, on était sollicités. Tous les compositeurs de ma génération ont été sollicités pour écrire pour saxophone. Et c'est un instrument intéressant. D'abord, on peut en jouer plusieurs, puisqu'il y a le saxophone soprano, l'alto, le ténor. Donc ça offre beaucoup de possibilités. Et j'aime bien cet instrument. Je le trouve très chantant.
Comment vous avez choisi le choix? Comment s'est fait le choix des compositions sur cet album Hasard, l'ordonnancement, toutes ces choses-là?
Au fur et à mesure de l'enregistrement, on a commencé par le concerto parce que c'est le plus difficile. Il emploie deux instruments, l'alto et le soprano. Et puis après, on a enregistré Hasard parce que ça n'existait pratiquement pas. Et puis les divertimento, évidemment. Enfin, on l'a fait rapidement, en deux jours.
Alors quand on regarde votre carrière un peu, si on commence presque vers les débuts, vos professeurs ont été vous avez croisé des professeurs assez célèbres, voire assez majeurs, que ce soit Nadia Boulanger pour l'accompagnement, Jean Doyen pour le piano, Tony Aubin en composition,
j'ai eu aussi Olivier Messiaen en analyse.
Qu'est-ce que vous, rétrospectivement, qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui de toutes ces rencontres? Est-ce que, même si j'imagine que toutes ont eu plus ou moins une importance pour la suite, aujourd'hui, rétrospectivement, quand vous regardez ça, est-ce qu'il y en a une ou deux ou des choses particulièrement qui sont restées en vous plus que d'autres? tout au long de votre...
Oui, certainement, c'est la classe de composition où je suis resté le plus longtemps. Et c'est là où on apprend quand même beaucoup de choses. J'ai un très très bon souvenir des classes d'écriture, l'harmonie avec Henri Chaland et le contrepoint et fugue avec Noël Gallon aussi. Et puis une classe intéressante aussi, c'était Louis Forestier, la direction d'orchestre. Ça, c'était bien.
Vous gardez quoi comme souvenir de ces années-là? C'était... quelle était l'ambiance?
Une ambiance sérieuse et à la fois... Oui, studieuse, mais on rigolait bien quand même. Hein. C'est-à-dire que c'était un petit peu... On faisait une classe et puis on avait envie d'aller ailleurs, donc ça se suivait. Après le piano, c'était l'accompagnement. Après la classe d'harmonie, on suivait fugue contrepoint, on allait en composition. Entre-temps, moi j'ai fait en même temps le prix de direction d'orchestre et le concours de Rome, l'année où j'ai le premier second grand prix, en 1953. Et d'ailleurs, il a fallu que je gratte, comme on dit, une semaine de mise en loge du concours de Rome pour pouvoir aller passer le concours de direction au conservatoire.
Dans cette période-là, quand vous étiez au conservatoire, quelle était votre vision des différents répertoires stylistiquement? Est-ce que vous aviez déjà des idées, des voies vers lesquelles vous vouliez vous engager? Ou vous étiez plutôt dans une période finalement où vous engrangiez du savoir, de la virtuosité?
Oui, je pense que c'est plutôt ça, oui. C'était une époque où on était surtout branché sur la musique qu'on découvrait, c'est-à-dire Prokofiev, Bartok, Shostakovich. Et puis, d'un autre côté, on ne connaissait pas, à cette époque-là, je vous parle de ça il y a 60 ans, hein, les choses comme Gustav Mahler et Bruckner étaient quand même, je pense, c'était des restes des guerres précédentes, hein, qui occultaient un petit peu la musique germanique.
Vous aviez des compositeurs de prédilection à ce moment-là?
Oui, Richard Strauss, par contre, on aimait beaucoup. Et Prokofiev, surtout, oui. Et puis Stravinsky, bien sûr. Ouais. Mais voilà, alors on essayait de... C'est-à-dire que c'était la suite de ce qu'on avait fait en classe d'harmonie, de fugue et contrepoint. À ce moment-là, on essayait de ressortir ce qu'on avait engrangé avant. Et ça donnait ce que ça donnait. Enfin, voilà.
Le Grand Prix de Rome, donc dans le jury, je crois qu'il y avait notamment Honegger et Florent Schmitt.
Oui, il y avait aussi Paul Paré.
Paul Paré aussi, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous gardez de ce souvenir de cette expérience, cette aventure?
Curieusement, Florent Schmitt avait dit la première année où j'ai le second prix, donc c'est rien le second prix par rapport au premier, puisqu'il n'y a rien. Alors le premier va à la Villa Médicis. Et Florent Schmitt m'avait dit j'aime beaucoup ce que vous avez écrit cette année, j'aurais aimé signer cette œuvre. Alors j'étais quand même pas fier, comme on dit, vous pensez. Il me dit ça comme ça, mais enfin j'avais le second prix. L'année suivante, il m'a dit oh, c'est beaucoup moins bien que l'année dernière, mais enfin j'avais eu le premier prix. J'étais très content. Mais Florent Schmitt était quand même quelqu'un de. Très, très amusant dans un sens où il plaisantait beaucoup. Alors, il avait la parole facile pour vous dire n'importe quoi de temps en temps. Mais c'était un grand monsieur.
Vous saviez à ce moment-là, quelle importance, quelle influence a eu ce prix sur la suite par rapport à vos envies, les directions vers lesquelles vous vouliez aller? Est-ce que ça a énormément compté pour vous?
Oh oui, quand même, parce que quand on avait le Grand Prix, on pouvait s'estimer être le premier compositeur français de l'année. L'année suivante, c'était fini. C'était quand même une très belle récompense, et puis ça permettait surtout, quand on était à la Villa Médicis, de connaître des gens qu'on n'aurait jamais connus. Je veux parler des peintres, architectes, graveurs. Moi, j'ai gardé de très bons souvenirs.
Quelles ont été les rencontres, justement, majeures pour vous?
Oui, c'est important de connaître d'autres personnalités aussi importantes et tellement éloignées de la musique, forcément.
Il y a eu des rencontres en particulier qui vous ont marqué à ce moment-là?
Oui, j'ai connu un peintre, c'est Paul Ambi, il est décédé l'année dernière, qui a fait des portraits de moi aussi d'ailleurs. Et un graveur que j'ai connu bien, enfin les gens de ma promotion surtout, l'architecte aussi. Et ça c'était très important, on découvrait vraiment de l'art qu'on ne connaissait pas, des arts qu'on ne connaissait pas.
Thank you.
Est-ce que l'écriture de la composition, à ce moment-là, en 54, était pour vous, vous le placiez un peu au-dessus du reste, parce qu'il y a également donc, il y avait le piano, il y a également la direction d'orchestre. Comment vous voyez avancer à ce moment-là? Est-ce que vous
à l'époque,
vraiment...
c'était plutôt le piano. Oui.
C'était vraiment le piano.
C'était le piano, oui. J'ai beaucoup écrit pour piano, j'ai beaucoup joué. La direction d'orchestre est venue plutôt plus tard.
Quels ont été les... Vous avez été soliste sous la direction de, pareil, de prestigieux chefs, que ce soit Clutens, Pierre Monteux, Georges Prêtre, ouais. Martinon, etc. Quand même une belle,
oui, avec Pierre
une belle palette. Quels sont ceux qui vous ont le plus marqué lorsque vous avez joué leur côté ?
J'ai bien connu Pierre Dervaux, qu'on est devenu amis, bien qu'on ne soit pas de la même génération. Et j'ai beaucoup travaillé avec lui, j'ai joué souvent Ravel, Prokofiev. Et puis alors j'ai connu des plus anciens comme Albert Wolff au Concertgebouw de Loup. Et c'était une rencontre très intéressante parce que les voir diriger et vous accompagner, puis ils avaient quelquefois des idées intéressantes sur l'interprétation.
Vous écriviez parallèlement toujours en permanence?
J'ai toujours écrit de la musique.
Vous aviez des phases, en fait, des périodes où vous écriviez plus que d'autres? Oui.
Quand j'avais le temps, surtout à cette époque-là, bien sûr.
Quand vous, dans votre carrière justement de soliste, quand vous fréquentiez tous ces chefs, est-ce que vous vous intéressiez, j'allais dire, à vos collègues, vos confrères, les autres pianistes de votre génération? Est-ce que vous étiez assez curieux par rapport à ce qui se passait dans l'univers du piano à cette époque?
Les gens de ma génération, pas tellement. On allait écouter surtout les anciens, Brailovsky ou Rubinstein, ou des gens comme ça. C'est là où on pouvait profiter de leur expérience.
Vous avez des souvenirs de concerts mémorables ou de l'avoir entendu?
Quand j'étais très jeune, je suis allé à 3 concerts. Il faisait 3 récitals Chopin, vous vous rendez compte, à l'époque, d'Alexandre Brailovsky. Je suis allé aux 3, et quand j'ai vu comment il interprétait les valses, les mazurkas, comme ça, j'ai dit, mais on ne sait pas jouer, nous, on joue ça comme un élève, alors qu'il faut. Il faut faire mieux que ça. C'était très enrichissant. Et surtout sur excusez-moi du terme, mais vendre sa marchandise. Enfin, c'est-à-dire que présenter une valse de Chopin comme ça, c'était formidable. Rubinstein aussi. Bon, ça, c'était intéressant.
La direction d'orchestre vous a attiré, arrivé à quel moment dans votre vie musicale?
Vous savez, c'est en cours du conservatoire. Ça va vous faire rire, mais j'ai vu dans une vitrine un superbe polo à l'époque qui avait des manches chauve-souris. Et je me suis dit vraiment ça. Et je dis à mon père, ça serait vraiment bien pour diriger, hein, avec les manches comme ça, quand on écarte les bras, ça va être formidable. Il dit, c'est une bonne idée, inscris-toi à la classe de direction. Et puis j'ai passé le concours, je suis rentré à la classe, et voilà, j'ai mis un petit peu, de temps en temps, mon polo quand même. Vous voyez, c'est comme ça que les choses peuvent arriver, c'est amusant.
Des hasards.
Je suis resté 2 ans à la classe, et j'ai eu le prix. Mais je garde un bon souvenir de Louis Forestier, c'était un excellent professeur, oui. Il a appris beaucoup de choses.
Vous vouliez avancer comme ça, en agissant aussi bien sur le piano, sur la direction, sur l'écriture
Vous savez, on fait une classe, on a un premier prix, on va à l'autre classe, on a un premier prix, on dit pourquoi pas continuer, donc ça marche comme ça.
Mais parfois on peut faire des choix, c'est-à-dire de dire se sentir plutôt...
Je regrette de ne pas avoir fait la classe d'orgue. Mais c'est à cause de Marcel Dupré, que je ne connaissais pas, mais il me faisait tellement peur quand je le voyais traverser le hall du conservatoire avec son grand manteau noir, ça me faisait très peur et du coup je ne suis jamais allé à la classe d'orgue. Mais je regrette, parce que ça doit être vraiment épatant d'improviser à l'orgue.
La composition, comment vous avez fait évoluer votre écriture justement à partir du Grand Prix de Rome, donc début des années 50 progressivement vous avanciez, vous écriviez beaucoup, est-ce que vous étiez vraiment très
prolifique ? Non, j'ai pas écrit beaucoup parce que j'ai été pris par le piano, après par la direction d'orchestre et après comme professeur au conservatoire. Alors ça prend beaucoup de temps et on est très influencé par la musique qu'on dirige, qu'on joue ou qu'on enseigne. Et c'est très difficile quand vous avez répété le matin une symphonie de Beethoven, l'après-midi enseigné le style de Debussy aux élèves. Quand vous rentrez chez vous, ce qui va sortir de votre esprit, c'est peut-être un peu trop de Debussy. Hein.
C'est une sorte de schizophrénie parfois qu'il peut y avoir un peu
Non, mais on est imprégné d'une certaine musique et difficile de s'en débarrasser. Ah oui.
Donc vous rentrez effectivement, c'est en 67, vous êtes nommé professeur d'harmonie au Conservatoire de Paris.
J'ai commencé avant, en 62, j'ai fait l'intérim de la classe des jeunes Leleux, et j'ai été nommé officiellement en 67. Donc j'ai fait 35 ans de professorat au Conservatoire, c'est pas mal, et j'ai beaucoup d'élèves, d'anciens élèves bien sûr.
L'enseignement, la transmission, c'est quelque chose que vous aviez en vous, qui était pour vous important justement? Ou ça s'est fait un peu par hasard?
Ça s'est fait par hasard, parce que Raymond Louchard, le directeur, m'a appelé pour prendre l'intérim de Jeanne Leleux qui était malade. Mais j'ai trouvé ça très intéressant et ma foi, oui, c'est vrai que c'est passionnant quand on a de bons élèves.
Vous avez quand même beaucoup effectivement élargi le répertoire pour orchestre d'harmonie.
Alors ça, c'est quand je suis rentré à l'orchestre de la Garde Républicaine.
Voilà, en 60, début des années 70.
73, je suis rentré, oui.
73.
Il y avait un concours, je me suis présenté.
Qu'est-ce qui vous a attiré? Parce que finalement, on a l'impression dont vous racontez tout ça, que finalement, il y a une sorte de succession de hasards.
Oui, c'est un peu ça,
un peu
oui.
Comme ça. Oui, vous êtes laissé bercer un peu porté par le flot. Vous aviez une attirance vraiment. Pourquoi se présenter justement, par exemple, à...
Bah, parce que, j'allais pas dire parce qu'il y avait la lumière, je rentrais.
On dirait presque.
Non, presque, oui, non, c'est pas ça, mais je faisais partie des jurys, en tant que professeur conservatoire, des jurys de recrutement de chefs de musique. Et alors, un jour, j'étais dans un jury et le président du jury, qui était Maurice Ranc, me dit, mais ça vous intéresse pas? Il paraît qu'à la Garde Républicaine, le chef François-Julien Brun s'en va, et il faudra un chef. Il me dit, vous savez, ça serait bien pour vous, surtout. Et il ajoute, ça serait bien pour la France. Là, il a exagéré un petit peu, mais enfin, bref. Et alors, finalement, bah oui, je me suis présenté, voilà. Et on était quand même 14 ou 17, je sais plus, enfin. Et dans un concours sur titre, bien sûr. Et il y avait Henri Dutilleux qui faisait partie de la commission là, ce jour-là. Ouais. C'était impressionnant. Oui.
Impressionnant. Hein. Comment on... Parce que musicalement, effectivement, c'est vraiment une orientation. Comment on... Vous n'y êtes pas resté juste deux mois, comme vous l'avez dit.
Non. Oui, ça aurait pu se faire, mais finalement, c'était très intéressant le fait qu'on faisait le patron complètement au point de vue musical. Donc on choisissait les programmes, on n'avait aucune obligation, aucune pression de personne. Et il y avait surtout cet orchestre qui était composé d'un orchestre d'instruments avant, plus un orchestre à cordes. Alors, évidemment, ça faisait trois orchestres, un orchestre d'harmonie, un orchestre symphonique et un orchestre à cordes. Et c'est quand même beaucoup de possibilités.
Ça vous a permis, effectivement.
Ouais.
Et justement, le fait d'avoir les mains libres par rapport au répertoire choisi, cette liberté totale, ça vous a permis, effectivement, de faire évoluer...
Oui, dans la mesure, on n'était pas trop coincé par les organisateurs de concerts. Hein. Parce que ça aussi, c'était très difficile de leur faire admettre de jouer un peu de musique contemporaine, et voilà.
Vous avez réussi quand même
Un petit peu, oui. J'ai un peu réussi.
Et sur l'aspect des arrangements, des orchestrations, vous avez pu aussi agir totalement libre.
Oui, parce que surtout, les orchestres avaient évolué depuis... Depuis la cinquantaine d'années, quoi. Alors, il y a des instruments même qui avaient disparu. Donc, il fallait redonner un petit coup de neuf sur les orchestrations. Ça valait la peine de le faire, oui. Surtout que les instrumentistes étaient vraiment très, très bons. Alors, on pouvait faire ce qu'on voulait. Ça, c'était bien.
Oui, puis après, effectivement, il y a une problématique pour ceux qui orchestrent et arrangent. Comment remplacer les cordes quand vous vous trouviez partitions
Oui, alors ça, c'est un problème... qu'on peut résoudre, mais pas sur toute la musique.
Vous avez fait des expériences, vous avez tenté des choses, puis finalement vous avez
baissé
les bras parce qu'au bout du compte, le résultat ne vous satisfaisait pas.
Ah oui, j'ai même orchestré les chorales de Bach qui venaient de l'orgue. Alors j'ai écouté l'orgue avec mon ami Jean-Claude Henrier, et puis j'ai écrit après la partition, puis après je l'ai travaillé avec orchestre en disant non, on enlève les saxos alto parce que ça ne sonne pas comme Bach, peut-être les saxos soprano auraient mieux, et puis la flûte c'est mieux le hautbois. Enfin, ça a été travaillé sur le terrain par exemple, ça c'était intéressant. Oui.
Durant ces années justement passées à la Garde Républicaine, est-ce qu'il y a un aspect du travail qui vous intéressait, qui vous plaisait plus que l'autre? Que ça soit en termes d'arrangement ou en termes justement peut-être de faire découvrir certains répertoires qui étaient peu... Est-ce qu'il y avait vraiment une facette de ce poste qui vous a plus fasciné, qui vous a plus intéressé?
Non, tout
était... C'était la globalité du...
Non, le travail avec l'orchestre d'harmonie, c'était intéressant de jouer des transcriptions, les arranger pour que ce soit mieux, écrire de la musique nouvelle. J'ai écrit aussi de la musique nouvelle. Et puis avec l'orchestre symphonique, on avait un orchestre qui marchait très bien, on pouvait faire quand même des beaux concerts. Et puis, il y avait aussi l'orchestre à cordes qui permettait de faire de la musique de chambre. Oui, non, il n'y avait pas une préférence plus ou moins forte pour l'un ou l'autre.
Dans cette période, en termes de composition, d'écriture, comment vous avez voulu faire évoluer votre style personnel?
Ah bah ça, j'en sais rien. Hein. On écrit... Moi, je me souviens de notre professeur de composition qui disait, écoute, si tu écris 10 minutes de musique... Pense que celui qui sera assis dans la salle va écouter, va perdre 10 minutes de sa vie pour écouter ta musique, alors arrange-toi pour que ça soit agréable.
Est-ce que vous vous sentiez proche d'une école quelconque en termes d'écriture, de composition?
Non,
même aujourd'hui,
pas...
est-ce que vous vous sentez plutôt un peu...
Non, plutôt, non, non.
Vous dites ça de manière...
Oui, oh, vous savez, voilà, il faut écrire de la musique audible.
Vous avez beaucoup, beaucoup tourné également, un peu aux quatre coins du monde?
Un petit peu, oui.
Tourné en URSS au début.
Oui, avec la garde au début. Voilà. Puis on a fait surtout le Japon souvent.
Japon,
une très belle tournée aux États-Unis, oui. Je crois que le plus beau concert dont je garde un souvenir, c'est à Carnegie Hall.
Oui,
vraiment.
C'était en 1975.
Oui, c'était vraiment très, très, très bien.
C'était quoi le programme, vous vous souvenez de ce que vous...
Avant, je jouais les tableaux d'une exposition, et puis je ne me souviens plus après vraiment ce qu'il y avait. Mais je me souviens quand je suis arrivé sur le podium, comme on dit, là, et j'ai vu tous les musiciens qui vraiment étaient très concentrés et ils disaient c'est vraiment le jour où on doit jouer le mieux.
Comment vous avez regardé toute cette... Parallèlement, vous regardiez l'évolution de la musique de votre temps, de notre temps, la musique contemporaine, l'écriture, les évolutions des écoles. Vous avez commencé dans les années 50. Comment vous regardez aujourd'hui d'ailleurs la...
Bon, on a vu la musique évoluer d'une curieuse façon. Bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais vous savez qu'il a pris un certain tournant qui ne me paraît pas très, très intéressant pour le public. Enfin, ce n'est pas une chose qui m'a beaucoup intéressé.
Vous avez beaucoup intéressé.
Non.
Aujourd'hui, quand vous... l'écriture, vous l'appréhendez de quelle manière avec tout ça? Quand on traverse comme ça une activité intense qu'on a arrangée, enfin, tout ce que vous avez fait, vous avez envie de vous orienter vers quel type d'écriture?
Ah, mon rêve, c'est d'écrire un quatuor à cordes, parce que c'est quand même, à mon avis, ce qui est le plus difficile, et il y a tellement de beaux quatuors. Alors ça serait... Mais je pense que j'y arriverai un jour, bien sûr.
Mais... Vous avez fait un oratorio aussi, vous avez fait une musique de ballet, enfin, vous avez quand même une palette.
Oui, bah, vous savez, quand on écrit de la musique, on peut s'essayer à tout. Et puis tant pis si on se trompe, mais on essaye de ne pas se tromper, quoi. Mais je pense qu'il faut se mettre au piano, écrire ce qu'on a envie, puis après on se fait son propre professeur et on se critique tout seul et on y arrive quand même. À un certain âge, on peut arriver à faire le professeur.
Et alors le professeur que vous êtes quand il juge sa propre œuvre, même si c'est jamais facile, est-ce qu'il y a une ou quelques pièces dont vous êtes particulièrement fier, qui vous tiennent avec le temps, qui vous trouvez...
Oui, il y a des choses... Oui, oh, bah, bien sûr, il y a des œuvres qu'on préfère. Et puis curieusement, il y a des œuvres qui sont, comme on dit vulgairement, un tube, là, pour certains spécialistes de l'instrument. Comme le divertimento saxophone, oui, je sais pas. Alors ça, je sais pas pourquoi du tout.
c'est pas votre œuvre préférée.
Je trouve que c'est pas mal fait, mais enfin, je vois pas pourquoi ça plaît tellement. Il y a aussi un morceau de basson, un morceau de concours de basson, Interférence, qui est joué partout. Voilà. Je crois que c'est intéressant surtout pour les éditeurs, qui vendent beaucoup de musique.
Alors votre activité, il y a pas mal de choses qui arrivent cet été notamment. Il y a une carte blanche, je crois, qui a lieu en juillet.
Ah oui, j'ai écrit là quelque chose d'amusant, c'est pour 8 trombones. Ça, c'est une petite pièce que m'a demandé d'écrire le professeur du conservatoire, Jacques Mauger. 8 trombones, alors évidemment, c'est amusant à écrire, je vais voir ce que ça donne. Et puis, ils vont carte blanche et qu'ils vont jouer ma musique pour trombone. D'ailleurs, j'ai reçu un disque d'une... femme qui joue du trombone, qui est à l'orchestre de Pittsburgh aux USA. Elle m'a envoyé l'enregistrement de mon concerto pour trombone. C'est quand même sympathique.
Hein. Ouais. Surtout de savoir que sa musique est jouée,
oui, jouée
et aux quatre coins du monde.
Oui, et par une femme en plus qui joue du trombone. Ça, c'est mon père qui était trombone solo de l'Orchestre National. Il serait épaté de savoir qu'il y a une femme qui joue mon concerto.
Alors, il y aura également le 26 juillet dans le Gard au Festival du Vigan. Il y aura une...
Ah oui, il y a une œuvre pour orchestre et saxophone que j'ai écrit. Ça, c'est écrit avec des thèmes de Taïwan. Alors, je sais pas, ça va me faire une musique un peu chinoise, mais que j'essaye de mettre au jour.
Bonjour. Ensuite, plus tard dans l'année, à la fin de l'année, en novembre, en décembre, il y a une fresque musicale sur la vie de Jeanne d'Arc.
Ah oui, ça, oui. Alors là, moi j'ai hérité du siège et de la bataille d'Orléans. Il y a d'autres choses, hein. Il y a le Charles VII, il y a le début avec le Don Rémy, là. il y a le bûcher, et le final. Enfin, moi, j'ai fait un scherzo rapide sur, le ba- sur la bataille. Hein. Ça prend beaucoup de percussions. mais évidemment, comme il n'avait pas de fusil à l'époque, on ne peut pas se servir de coups de feu. Enfin, on peut faire des bruits de, d'enclume et de sabre. Oui, ça m'a bien amusé. Et ça, c'est pour la fin de l'année,
la fin, la fin de l'année. Ouais. Et toujours à la fin de l'année, en décembre, il y aura encore une autre carte blanche à Strasbourg cette
à
fois.
À Strasbourg, oui, c'est Philippe Guest, le saxophoniste très connu, qui m'invite là autour du saxophone. Mais il y aura d'autres œuvres, bien sûr. Ça se passe sur trois jours. Et il y aura d'autres œuvres que le saxophone.
Quand on regarde un peu tout ce que vous avez fait, finalement, il y a une sorte d'éclectisme. C'est vital pour vous, la curiosité, l'éclectisme, aller... je sais pas, c'est vous qui avez fait aussi, par exemple, je reprends un autre comme ça, chose qui traverse l'esprit, la marche pour les JO d'hiver.
C'était un concours, ça. J'ai passé le concours. Enfin, j'ai envoyé une
Grenoble
partition.
68, c'est moi. Voilà, encore quelque chose qui arrive comme ça dans votre carrière, un fait d'arme assez étonnant.
Oui. ça c'est vrai, oui. Cette marche olympique qu'on a jouée qu'une fois d'ailleurs. D'ailleurs, curieusement, c'était en 68 et c'est l'orchestre de la garde républicaine qui l'a joué à Grenoble. Ouais, j'ai vu ça à la télévision.
Alors donc, pour revenir à ma question, cette curiosité, que ce soit aussi bien en termes de formation qu'en termes de thématique, en termes de... C'est une sorte de carburant pour vous, c'est un oxygène, c'est un besoin comme ça de ne pas vous enfermer dans un...
Oui, c'est comme vous disiez que ça a été toujours une section comme ça au conservatoire. C'est un petit peu ça dans la musique. C'est la commande, les gens qui vous disent que vous ne voulez pas écrire pour moi. Alors ça dépend quoi, hein, évidemment. J'ai jamais écrit pour accordéon, par exemple. Mais on m'a proposé bandoneon, oui. Mais alors, si vous mettez bandoneon, il faut écrire Piazzolla. Mmh. Et Piazzolla, c'est pas facile à imiter. Puis ouais, ça sert à rien, surtout.
Ça existe déjà.
Ouais. Non, dans les commandes, j'ai aussi la musique des parachutistes de Toulouse qui veut que voudrait que j'écrive quelque chose. Aussi, c'est amusant, non?
Comment vous trouvez votre inspiration aujourd'hui? Ça vous vient naturellement, machinalement? On se lève le matin et on se...
Oui, on ne vient pas quand même tous les jours facilement. Hein.
Parce que même on vous en parlait, on a l'impression que...
Oui, non, il suffit de se mettre au piano et puis on voit bien si ça vient ou si ça ne vient pas. Mais c'est toujours la page blanche quand même. Hein. Mmh. Oui, oui.
Il y a eu des moments justement dans ce flot incroyable de musique qu'on vient d'évoquer où justement vous avez dit le mot page blanche, vous vous êtes retrouvé dans des sortes de cul-de-sac personnels ou dans doutes, des interrogations.
Ah oui, oui, sûrement. Et c'est surtout le fait que vous écrivez quelque chose, même si c'est que du 8 mesures, vous dites ça quand même, c'est bien, ça me plaît bien. Puis quand vous remettez au piano le lendemain, vous trouvez que c'est très mauvais, quoi. Donc ça arrive à tout le monde, je crois. Oui. Ça, c'est déprimant, évidemment. Ouais. Donc il n'y a plus qu'à recommencer. Et finalement, on trouve quand même. Mais c'est difficile. Et puis, on a peur de s'engager dans une mauvaise passe aussi.
Thank you.
Quel type de mélomane vous êtes aujourd'hui quand vous écrivez pas de la musique, quand vous en jouez pas vous-même? Est-ce que vous en écoutez? Est-ce que vous écoutez des disques chez vous, la radio? Est-ce que vous allez au concert de temps en temps?
Au concert de temps en temps, oui. La radio, oui, bien sûr, radio classique, on entend des choses bizarres des fois, oui. Et j'ai aussi un neveu médecin qui me propose toujours des disques, mais pas classiques. Vous savez, c'est Pascal Obispo ou Muse ou des choses comme ça, il me demande mon avis, et je lui donne mon avis. Et ça ne l'est pas toujours, forcément. Mais comme ça, je me tiens au courant des nouveautés dans la variété.
Le jazz, par exemple, quand vous pour qui le saxophone est un instrument important, c'est une musique qui vous a...
Ah oui, j'aime bien le jazz. J'ai beaucoup d'admiration, par exemple, pour Oscar Peterson, comme pianiste, c'est extraordinaire.
Ouais,
et puis, quand on était à Rome, on écoutait Charlie Parker, quand on est à la Villa Médicis, Charlie Parker. Qu'est-ce qu'il y avait encore, le trompettiste, là
Dizzy Gillespie.
Oui, Dizzy Gillespie, oui. Il y avait un pianiste, Flanagan.
Tony Flanagan.
Ah oui, tout ça.
Grand pianiste.
Ouais.
C'est pas une musique qui vous a attiré en termes
d'écriture? Oh non, c'est trop difficile. Enfin, ça me paraissait impossible.
Trop difficile.
Ah oui, non, on admire, mais on ne peut pas copier. Assez dommage d'ailleurs.
Comment vous, en traversant comme ça toutes ces décennies, ces styles, en croisant tous ces acteurs divers et variés du monde de la musique, est-ce qu'il y a des périodes qui vous ont plus passionné, qui vous ont semblé plus palpitante musicalement que d'autres, ou finalement vous êtes toujours trouvé bien dans votre temps et vous avez avancé avec le même plaisir?
Oui, je pense. Enfin, le même plaisir, oui, plus ou moins. Oui, vous savez, il y a des moments où on a envie d'écrire, il y a des moments où on vous demande d'écrire, alors on essaye, on n'y arrive pas, puis il faut le faire quand même. C'est difficile à cerner ce problème d'écriture musicale. Ou alors, il faut être un grand compositeur comme Henri Dutilleux, ne faire que ça toute sa vie, et là, ne pas avoir d'élèves qui vous impressionnent ou qui vous apprennent une certaine musique. Je crois que c'est important. Je vous parlais de l'ami de la Médicis, Paul Ambi, qui était un grand ami et qui était peintre, a toujours refusé d'être professeur à l'école des Beaux-Arts ou d'avoir des élèves, ou faire comme ça, pour rester vraiment dans sa peinture. Il ne voulait pas être influencé d'une façon quelconque. Et bon, si on peut le faire, c'est vrai. Comme musicien, c'est difficile. Hein. Si, il y a eu Francis Poulenc, des gens comme ça, oui.
Il y a encore des questions dont vous cherchez les réponses par rapport justement à la composition. Il y a une grande question comme ça, quand vous vous retrouvez sur votre page blanche, pour reprendre l'expression que vous citiez tout à l'heure.
Oui, mais il faut se méfier des expériences. Hein. On peut écrire n'importe quoi. Oui, j'ai écrit par exemple un quatuor saxophone et orchestre. Et maintenant, je trouve que puis un quintet avant aussi, mais je trouve que c'est pas intéressant. C'était des expériences de probablement influencées par l'époque. Alors ça fait beaucoup de fausses notes, peu agréable à entendre. Comme disait mon professeur Tony Aubin, arrange-toi pour que ce soit agréable pendant 10 minutes. Ça vaut la peine.
Ça reste finalement votre...
Ah oui, je crois, oui. Même si on écrit de la musique un peu tordu, je ne sais pas comment on pourrait dire. Il faut quand même que ça accroche l'auditeur. Si c'est pour l'endormir, ce n'est pas la peine.
Ah, vous disiez tout à l'heure, j'ai envie d'écrire un quatuor. Il y a d'autres choses qui vous font envie?
Non, c'est le quatuor.
C'est vraiment ça.
Ah, j'aimerais bien, comme j'ai beaucoup travaillé pour les instruments avant, j'aimerais bien maintenant écrire un petit peu plus pour les instruments à cordes. Là, je viens de finir une œuvre pour une espèce de sonate, ou plutôt des variations pour violon et piano, oui. Pour une violoniste taïwanaise d'ailleurs. Et ben, j'ai hâte qu'elle vienne le jouer avec moi pour voir un petit peu à nous deux ce que ça donne. Oui, ça c'est intéressant. Parce qu'on entend un instrument dans sa tête, on l'entend très bien, mais quand vous l'entendez pour de vrai, quelquefois on peut l'améliorer. Ou on dit, non, ça ne va pas, c'est pas tout à fait ce qu'il faut, on doit trouver mieux. Ça c'est intéressant. Le travail, si on connaît quelqu'un qui a l'esprit qui correspond, c'est-à-dire qui vous dit ça, c'est pas très bien, ça ne sonne pas très bien, écoute ça, est-ce que c'est mieux? Et effectivement, c'est toujours mieux. Ou alors, quelquefois, vous avez des interprètes excellents, mais qui vous disent non, ça c'est maladroit, mais alors vous dites, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ne savent pas. Ah, ça, c'est embêtant, parce qu'on est obligé de trouver autre chose, et voilà. Il faut trouver l'interprète qui est un petit peu compositeur aussi.
Ah, vous avez justement la chance, c'est que vous êtes vous-même interprète.
Ah bah pour le piano, oui, ça va.
Voilà. Et vous êtes également compositeur. Vous avez les deux
oui,
casquettes.
Ça va.
Justement sur cette relation particulière entre le compositeur et l'interprète, vous venez de l'évoquer à l'instant. C'est quelque chose d'unique en plus, j'imagine, par rapport quand on aborde la musique, quand vous jouez des pièces d'œuvres de compositeurs qui ne sont plus sur la terre, et quand vous êtes vous-même maintenant le compositeur oui. et que vous vous retrouvez à discuter avec des élèves ou des interprètes.
Ah oui, ça c'est intéressant. Ce qui va peut-être vous surprendre, c'est quand je dirige une œuvre de moi, ou si je la joue au piano, je ne sais plus que c'est moi qui l'ai écrite. Alors je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais des fois, je me dis, qu'est-ce qui a bien pu écrire un truc pareil ? Et en le travaillant, bon. Et après, je joue ce concerto quand je jouais mon concerto de piano, il y a longtemps. Le premier que j'ai écrit, je ne savais plus du tout que c'était moi. Pas du tout. Je jouais ça comme ça aurait été d'un autre compositeur. Et ça me fait toujours la même chose. C'est très curieux. Hein.
Même sur des œuvres récentes,
il y a toujours cette... Oui. Pas quand je l'écoute si je suis dans la salle, mais si c'est moi qui joue ou c'est moi qui dirige. Oui. Et d'ailleurs, il faut que je fasse comme ça. Je me suis aperçu que je ne dirigeais pas très bien les œuvres de moi. C'est-à-dire que j'écoute et puis je ne fais plus travailler l'orchestre. Alors en même temps, il faut que je pense que ce n'est pas moi et qu'il faut que je la fasse le mieux possible pour que le compositeur soit content, en pensant que c'est un autre, quoi, évidemment.
Finalement, ça vous arrange, vous préférez quand le compositeur que vous êtes donne l'œuvre à d'autres interprètes, d'autres...
Oui, à condition qu'il soit bon,
oui.
Évidemment. Oui, c'est bien aussi. Bon, c'est toujours très intéressant d'entendre quelqu'un qui a une autre idée que la vôtre sur le plan de l'interprétation.
Également dans votre actualité, plusieurs concerts donc à la fin du mois de mars, là, du 27 au 30 mars, notamment à l'auditorium Marcel Landowski, à Rue de Madrid, au Conservatoire.
Oui. C'est une idée du directeur et de Philippe Ferraud, qui est directeur de l'orchestre du Conservatoire, de faire un grand honneur, de jouer une pièce de moi dans chacun de ses concerts. Donc c'est le 27, 28 et 30 mars.
Et 30 mars.
Alors, il y a deux solistes. Il y a Clément Saunier qui joue mon concerto de trompette. Il joue vraiment très bien, je le connais. Une jeune japonaise qui joue Fuji, qui est une œuvre pour piano et orchestre, et qui est aussi inspirée de thèmes taïwanais. Et puis, une œuvre qui s'appelle Ikiru Yorokobis, qui veut dire joie de vivre en japonais encore, et qui était une commande d'un orchestre d'Osaka.
Bien. Voilà. Bien, Roger Boutry, merci. Donc, je rappelle que votre album Hazard sur le label Coralia est désormais disponible sur Cobuz en qualité Studio Masters, donc un album que vous avez enregistré avec la saxophoniste Émilie Leclerc. Merci Roger Boutry.
Merci à vous.
Thank you.
arrobase.com. Rencontre par Marc Zisman.